debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Tabou, tabou. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entraves.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout, collectif féministe et anticapitaliste de Nancy. Et aujourd'hui, nous sommes quatre au micro. Moi, c'est Maya.
Alex.
Robert.
Alizé. Alors, le sujet de l'émission va concerner le cinéma, les jeux vidéo, tous les médias. Puisque toute notre vie, nous sommes influencés par les médias qui nous entourent et qui occupent une place déterminante dans nos esprits et dans nos imaginaires. Soit la télé, le théâtre, enfin tout. Donc quand on regarde les statistiques, et ben là on constate une discrimination énorme dans ces médias, puisqu'une écrasante majorité d'hommes blancs hétérosexuels sont représentés. Par exemple, on a 3 hommes représentés pour une femme dans les films familiaux.
Or, les spectateurs et spectatrices qui voient 17% de filles ont l'impression d'en voir 50%.
80% des personnages qui travaillent sont des hommes, contre 50% dans la vraie vie.
Les femmes montrées ont 4 fois plus de chances d'être montrées dans des vêtements sexy. Elles sont beaucoup plus maigres que la moyenne, même les enfants.
Un personnage féminin qui parle sur 3 est présenté partiellement nu.
En France, seuls 4 des 25 films avec le plus d'entrées passent le test de Bechdel. À savoir qu'il y a au moins 2 femmes qui sont nommées, qui parlent ensemble et d'autre chose que d'un homme.
Sur le top 500 du box-office de tous les temps, seulement 6 films ont un personnage principal qui est une femme de couleur.
Et on remarque qu'il suffit d'une femme dans l'équipe de scénaristes pour augmenter le temps d'écran des personnages féminins. Mais parmi les scénaristes, il y a 5 hommes pour une femme.
94% des œuvres subventionnées que nous écoutons sont produites par des hommes.
En 2015, les femmes dirigent 0% des théâtres nationaux, 10% des scènes de musique actuelles et 11% des centres chorégraphiques nationaux.
Et représentent seulement 1% des compositeurs, 22% des auteurs et 26% des metteurs en scène.
Et quand on sait par exemple qu'il y a eu un incroyable pic des inscriptions féminines au baseball après la diffusion du film A League of Their Own sur le baseball féminin, ben on se dit que la représentation dans les médias est un levier très important de l'égalité. Et voilà pourquoi nous y consacrons notre émission aujourd'hui. Et on va commencer avec la rubrique « Être féministe, c'est quoi ?»
Nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Que toutes les femmes ne sont pas libres. Nous sommes en marche.
Alors, le genre, c'est quoi ?
Pour expliquer ça, on peut reprendre une idée de la chroniqueuse Lessie Green qui propose d'imaginer le genre comme une valise. Pour beaucoup de gens, le sexe et le genre, ça se résume à homme égale pénis, femme égale vagin. Bon, c'est bien plus complexe que ça. Le genre, c'est un peu une valise qu'on vous a préparée avant votre naissance. Si vous avez un pénis, en général, vos parents vous ont donné la valise garçon. Dedans, il y avait du bleu, des camions, du sport, des cheveux courts, des muscles, du courage, de l'ambition. Si vous avez un vagin, alors vos parents vous ont probablement donné la valise fille, avec du rose, des robes, du maquillage, des cheveux longs, de la patience et des câlins.
Alors pourquoi est-ce que ça pose problème ?
Bah, le problème, c'est qu'on ne trouve pas forcément son bonheur dans la valise qu'on a reçue. Il peut y avoir des choses en trop qui nous encombrent et qu'on voudrait bien balancer. Il peut y avoir des choses qui manquent et qu'on aimerait bien piquer dans une autre valise. On peut vouloir les 2 valises à la fois ou bien aucune.
Alors être féministe, c'est quoi ?
Eh bien, être féministe, c'est penser qu'on ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la valise de quelqu'un juste en le regardant et qu'on a toutes et tous le droit de personnaliser sa valise comme on veut, sans pour autant avoir à subir des moqueries ou des discriminations.
Donc, la valise, c'est le genre et être féministe, c'est entre autres se battre pour que chacune et chacun ait le droit d'exprimer son identité comme bon lui semble.
Voilà.
Et est-ce que les médias reflètent bien cette complexité ?
Non, côté représentation, c'est vraiment pas brillant. Hein. Tous médias confondus, on retombe trop souvent dans des clichés vus et revus, par tradition, par obligation ou même par flemme, quoi.
Et pourquoi la représentation de toutes les identités est importante ?
D'abord, la représentation nous permet de construire son identité en s'identifiant à des personnages qui nous ressemblent, des modèles en quelque sorte. Quand on ne voit jamais de personnages qui nous ressemblent, on se sent exclu, ignoré, et on finit par se dire qu'on n'est tout simplement pas normal. Donc représenter toutes les identités, c'est s'assurer que chaque enfant puisse grandir en se disant qu'elle ou il a sa place dans la société, et qu'elle ou il puisse voir aussi qu'il y a des personnes différentes qui ont aussi leur place.
Donc représenter de multiples identités permet de se construire avec tous les différents modèles possibles.
Voilà, et puis une représentation diversifiée, ça permet d'éviter de créer des stéréotypes chez les enfants et de les perpétuer chez les adultes.
On sait bien qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé ou sur Internet. Alors comment est-ce que ça peut nous influencer ?
Franchement, c'est difficile d'imaginer que des images auxquelles on est exposé en permanence depuis l'enfance n'ont aucun effet. À force de voir les mêmes clichés dans les médias, on finit par les accepter dans la vraie vie. On ne les questionne plus. Les médias ne sont pas juste le reflet de la réalité, ils la façonnent aussi. Donc changer notre culture, ça nous aide à voir le monde autrement et à changer nos comportements.
Est-ce qu'on a un exemple de ces clichés qui se reproduisent dans les films ?
Oui, par exemple, dans les films d'horreur. Est-ce que vous avez remarqué qui meurt toujours en premier ?
Alors, on a un extrait de La cabane dans les bois de Joss Whedon.
Les victimes doivent être au moins 5. La putain, qui est dépravée, meurt en premier. L'athlète, l'érudit, le fou. Tous souffrent et meurent tués par les créatures horribles qu'ils ont invoquées, laissant le dernier vivre ou mourir selon ce que décide le destin. La Vierge.
Joss Whedon, c'est lui qui a réalisé Buffy contre les vampires, qui heureusement permet de sortir des clichés enfermants et ça aide les jeunes femmes à se voir plus fortes.
Oui, une représentation variée et sans stéréotypes, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Par exemple, voir plus de femmes scientifiques dans les médias, ça peut aider les petites filles à s'imaginer dans ces métiers, tout simplement, parce que ça leur montre que c'est possible.
Il y a une citation de Whoopi Goldberg, par exemple, dans à propos de Star Trek, où elle disait que Star Trek est passé à la télé quand elle avait 9 ans. Et elle a regardé, elle s'est mise à hurler dans toute la maison. « Venez maman, tout le monde, venez vite, il y a une dame noire à la télé, et c'est pas une boniche !» Et c'est à ce moment-là qu'elle a su que tout lui serait possible.
Et on a une chanson pour illustrer ces pressions sociales qui sont intériorisées.
Oui, honneur à tous, de Mulan. Pour vous remettre dans le contexte, Mulan, c'est une fille qui aime l'aventure, l'action et qui se fiche d'être bien habillée. Mais pour la société dans laquelle elle vit, une fille doit être jolie, douce, soignée. Et sa préoccupation doit être avant tout de trouver un mari. Donc comme beaucoup de filles, Mulan essaie de correspondre aux attentes de cette société alors que cela va visiblement à l'encontre de ses envies et de ses goûts. Et ça la rend malheureuse.
Alors on écoute la chanson « Honneur à tous » de Mulan.
Tu n'es pas très nette, ma mignonnette, mais crois-moi, j'ai vu pire. Je vais faire de toi cochonnette, le plus pur des saphirs.
C'est glacé.
Ce serait plus chaud si tu étais arrivée à temps.
Avant tout, viens frotter, ça va me rincer, faire briller. C'est la marre, c'est instantané, pour te marier dans l'honneur.
Mulan, qu'est-ce que c'est ?
Des notes, au cas où j'oublierais des choses.
Tiens ça, il nous faudra plus de chance que je croyais.
Tu verras, grâce à nous, tu rendras fou les manchous, mon chou, en te coiffant
avec tant de goût.
Tu nous combleras d'honneur. L'honneur d'une famille s'apprécie quand la fille se marie. Trouvant un bon parti, elle gagne la partie.
Les garçons aiment les filles calmes et dociles,
l'esprit agile, fine et subtil,
la taille gracile.
Tu nous combleras d'honneur.
Tu verras une épouse idéale, tu auras un
idéal, tu auras
tu es exquise.
Pas encore. Une pomme pour la sérénité et pour l'équilibre à cogner.
Pierre de jade pour parer. Fièrement ta beauté. Avec ce criquet, porte-bonheur, je t'interdis toute erreur.
Chers ancêtres, aidez-moi. Je ne dois pas faire un seul faux pas. Si je décevais la famille Fa, mon père perdrait son honneur.
Affligé d'une terreur affreuse, nous allons chez la mariée. Je suis filée, sale câline, avec ces jolies poupées de Chine. En Paris, à la Beaupaline, qui viennent confier leur cœur. À pop, honneur à tous. À pop, honneur à tous. À pop, honneur à tous. À pop, honneur à tous.
Alors vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. Aujourd'hui, on va parler de la représentation des différents genres dans les médias et on passe à la rubrique Actualité. Alors, Thérèse Claire est décédée le 16 février 2016 à l'âge de 88 ans. C'est qui Thérèse Claire ?
Alors oui, Thérèse Claire était une militante féministe de la première heure. Elle s'était battue pendant 15 ans pour fonder la maison des Baba Yaga, ouverte début 2013. Hébergeant une vingtaine de colocataires, âgés de 60 à 80 ans, et installés dans des studios individuels au cœur d'un seul et même bâtiment, il s'agissait pour ces femmes attachées à leur indépendance de vieillir ensemble, en toute liberté, expliquait-elle alors. Les Baba Yaga empruntent leur nom aux sorcières mangeuses d'enfants dans les contes russes.
Donc c'est Thérèse Claire qui a fondé la maison de retraite autogérée pour femmes, la maison des Baba Yaga, et elle avait également fondé une maison des femmes à Montreuil.
Alors exactement Maya, cette maison est ouverte aux femmes de tous les âges, victimes de violences, en insertion ou réinsertion. Celle-ci avait été rebaptisée la maison des femmes Thérèse Claire le 15 janvier 2016 en sa présence. Thérèse Claire a également créé l'université des savoirs sur la vieillesse. Alors, au nom du collectif Debout, je tenais à présenter toutes nos condoléances à la famille de Thérèse Claire, ainsi qu'à ses proches, et à tous ceux qu'elle a pu aider au quotidien grâce à ses différents projets. La lutte continue.
Alors, une autre actualité, c'est la sélection des Oscars 2016, avec uniquement des acteurs et actrices blanches. Alors, pourquoi les Oscars sont tellement blancs ?
Alors, oui, l'Académie des Oscars a annoncé début janvier la liste des nominés pour cette année. Cette liste a relancé un débat ancien sur le manque de diversité à Hollywood, attisé par des prises de position virulentes sur les réseaux sociaux. En effet, pour la deuxième année consécutive, les nominés de des catégories meilleur acteur et meilleure actrice sont tous blancs.
Bon, étant donné que le jury des Oscars est très largement dominé par les hommes blancs de plus de 60 ans, c'est pas si étonnant.
Et oui, et il y a même des chiffres basés sur une enquête menée par le Los Angeles Times en 2012. À cette époque, 94% des membres du jury étaient caucasiens, 70% sont des hommes. 77%, pardon. Les hommes, les noirs représentaient seulement 2% du jury et les latinos encore moins. Seuls 14% avaient moins de 50 ans.
Et est-ce que c'est représentatif des films ?
Oui, aussi. Alors, il y a une étude américaine qui a montré que sur 100 films populaires de 2014, 73% des personnages étaient blancs, 12% des personnages représentés étaient noirs, 5% étaient latinos, 5% étaient asiatiques et 3% venaient du Moyen-Orient.
Alors on parle de whitewashing. En quoi c'est problématique ?
Pour vous expliquer ce concept de whitewashing, qu'on peut traduire par blanchiment peut-être, un épisode de l'émission Kezako de Naya, la ringarde, le fait qu'il fait très bien d'ailleurs.
Et c'est qui Naya ?
Alors Naya, c'est une jeune femme noire dans un monde dirigé par des vieux hommes blancs pour la cité. Et elle est donc directement concernée.
Alors on écoute l'extrait qui explique le whitewashing, c'est Naya.
Le whitewashing, c'est une pratique qui consiste à faire jouer le rôle d'un personnage qui n'est pas blanc par un acteur blanc.
Qu'est-ce que ça peut faire au fond ? Si un personnage noir devient blanc, violet, on s'en fout, tant que ça donne des films et des séries de qualité.
Eh bien, détrompe-toi, le whitewashing dans un récit historique ou biblique peut pousser le téléspectateur à se créer un imaginaire faussé de l'histoire et de ceux qui l'ont construite. Quant aux productions comme Aladdin, elles invisibilisent les personnes non caucasiennes et surtout ne donnent pas leur chance aux Arabes, Noirs, Métis, Asiatiques en tant qu'acteurs. La France est remplie de personnes de couleurs différentes. Quand on sort dans la rue, on croise des individus de toutes les origines. Mais une fois qu'on allume la télévision pour regarder des programmes français, ça n'est pas une majorité de blancs qu'on voit, mais un paysage médiatique uniquement blanc, à part quelques exceptions qu'on peut compter sur les doigts d'une main.
Bon, pour en revenir donc à notre sujet d'émission sur la représentation des genres dans les médias, pour le problème, c'est que les femmes sont rarement au devant de la scène. Pourquoi ?
Ben, c'est vrai que c'est présent partout, mais c'est sûrement plus visible dans le jeu vidéo qui est très très jeune. La plupart des productions sont pensées pour un public d'hommes. Ça ne veut pas seulement dire que le protagoniste du jeu ou de l'œuvre sera un homme, ça veut aussi dire que les valeurs communiquées seront des valeurs dites masculines, et ça peut aller jusqu'à du virilisme ridicule ou de la misogynie.
Pas mes meufs ! Pas dans ma ville ! Sale fils de pute d'extraterrestre, vous allez me le payer !
Bon, ça veut dire que ce genre d'œuvre n'intéresse que les hommes ?
Celle de Duke Nukem qu'on vient d'entendre, oui, mais normalement, en général, c'est pas le cas. Beaucoup de gameuses aiment les jeux de shoot et l'idée de se défouler dans un jeu en préparant l'émission. Je suis par exemple tombé sur le témoignage d'une joueuse qui expliquait que ça lui fait beaucoup de bien d'exploser un misogyne du type « fais-moi un sandwich » dans un jeu. Et de la même manière, le succès du jeu de Walking Dead des studios Telltale récemment prouve que des valeurs dites féminines, dans le cas présent protéger un enfant, peuvent toucher tout le monde.
Mais alors, pourquoi toujours s'adresser aux hommes dans les jeux ?
Parce qu'on a souvent affaire à des œuvres qui sont faites pour des hommes, par des hommes. Quand un créateur du jeu explique qu'il trouve que c'est irréaliste d'avoir, pour une fille, de faire des mouvements acrobatiques, il ne faut pas s'étonner que dans son jeu, le personnage féminin ne fasse rien, que ce soit son copain qui fasse toutes les aventures. Il arrive souvent que le genre, l'orientation sexuelle ou la couleur de peau d'un personnage ne soit pas importante pour l'histoire, surtout dans les jeux. Et quand c'est le cas, on retrouve trop souvent toujours un homme hétéro blanc.
It's me, Mario !
Et dans ce cas, pourquoi plus de femmes ne se dirigent pas vers des postes de créatrices ?
Le plus simple pour répondre à ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est directement concerné. Donc là, Jessica Curry et son mari Dan sont fondateurs d'un studio qui s'appelle The Chinese Room. Et très récemment, Jessica a décidé de quitter le studio.
Donc pour expliquer les raisons, on va écouter une traduction du témoignage de Jessica.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Je pensais que j'étais assez forte pour mener le combat, qu'avec du talent, du travail et de l'optimisme, je réussirais à prouver que les femmes ont un rôle majeur à jouer. Mais, et ça me fait aussi mal de vous l'avouer à vous qu'à moi-même, c'est un combat que je ne pourrai plus mener. Je laisse ça à des personnes plus jeunes et plus fortes que moi. Sur le plan personnel, je repense à mon immense contribution sur tous nos jeux et comment j'ai dû voir Dan en tirer la gloire à chaque fois. Ces journalistes qui ont supposé que j'étais l'assistante de Dan. Ces articles qui m'ont désignée seulement comme la femme de Dan. Ces éditeurs que l'on rencontre pour la première fois et qui pensent automatiquement que mon producteur est mon patron, seulement parce que c'est un homme. Ce magazine qui a présenté Dan comme LE chef de studio, sans même mentionner mon nom. Quand Dan disait « Jessica est le cerveau de l'opération » et qu'on répondait avec des petits sourires méprisants que c'était mignon d'être si gentil avec sa femme. Je n'ai pas assez de papier pour lister toutes les humiliations qu'on m'a infligées. Un proverbe dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». À ça je réponds « Merde ». J'ai compris qu'il n'y a qu'en m'éloignant de Dan que je pourrais être reconnue pour mon travail. Ce n'est pas lui que je rejette, mais cette société qui est toujours incapable d'accepter qu'une femme puisse être tout aussi talentueuse que l'homme avec qui elle partage sa vie.
Ouais, c'était le témoignage de Jessica Curry. Elle a également signé les bandes originales des musiques des jeux du studio, dont le super cool Everybody's Gone to the Rapture, qu'on va maintenant écouter.
I passed the day at the moon.
In their song, I heard your song. I heard
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. Et vous venez d'entendre une musique composée par Jessica Curry, qui, hélas, a quitté sa boîte de jeux vidéo. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on est féministe, eh ben, on ne peut plus rien apprécier parce que toutes les œuvres sont sexistes, à part peut-être qu'il y a quand même des films indépendants qui passent qu'en VO et puis qui restent deux jours au caméo?
Pas du tout, même si le caméo, c'est très bien. Quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, j'avais un peu peur de ça. J'aime beaucoup les jeux vidéo et ça passe pour un média très très sexiste. Mais la plupart des féministes qui émettent des critiques sur ce média veulent le voir s'améliorer et raconter plus d'histoires. Et on peut trouver vraiment beaucoup d'exemples positifs et de bons dans des œuvres. On peut citer Bayonetta, qui est certes dessinée comme un fantasme pour hétéro, mais qui est une sorcière qui pète la classe et qui a besoin d'aucune aide pour se battre. Shell, l'héroïne de Portal, qui est une femme alors que c'est pas important à l'histoire. C'est rare de faire ce choix et c'est très bien. Et le jeu Undertale, plus récemment, qui désigne son personnage principal par le pronom anglais neutre « they ». Il y a vraiment beaucoup d'exemples positifs et c'est ça qui nous permet de rester déterminés.
Oui, on reste déterminés à changer les choses, pierre par pierre, parce que le jeu en vaut la peine. Alors, pour la représentation dans les médias, on va aussi s'intéresser à l'enfance, puisque la diffusion du sexisme, elle commence dès l'enfance. Et est-ce qu'il y a des œuvres antisexistes qui sont abordables ? Alors, que dire de Disney, par exemple ?
Disney reste loin du compte, hein, puisque moins de 20% des films Disney mettent en scène une héroïne comme personnage principal. On se souvient quand même d'héroïnes marquantes comme Pocahontas, Mulan, qu'on a évoqué tout à l'heure, des femmes qui prennent leur vie en main, quoi, qui sont souvent un des premiers modèles de femmes fortes pour les petites filles.
Les natifs américains, la Chine ancienne, ce serait pas une façon un peu de rejeter la faute sur les autres cultures ?
Absolument, et c'est le gros point négatif. Disney retombe trop souvent dans des clichés d'exotisme et minimise le mauvais rôle des Blancs. Pocahontas, ça déforme énormément la réalité historique, ça nie complètement l'ampleur des violences subies par les peuples natifs américains. Mais bon, plus récemment, on a eu enfin la première princesse noire de Disney, dans La Princesse et la Grenouille, et puis avec Elsa de La Reine des Neiges, Mérida de Rebelle, on a enfin eu droit à des héroïnes qui ne recherchent pas forcément l'amour, mais qui veulent juste accepter pour ce qu'elles sont.
On a vu aussi le dernier épisode de la saga Star Wars, avec Rey, une héroïne blanche, et Finn, un héros noir.
Oui, Rey, c'est une héroïne forte et indépendante, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Star Wars a complètement joué avec les clichés de la demoiselle en détresse, puisqu'on voit Finn qui voit Rey en danger, qui court l'aider, pour s'apercevoir qu'elle a déjà neutralisé les agresseurs elle-même, avant même qu'il ait eu le temps de la rejoindre. À plusieurs reprises, quand Finn lui prend la main, Rey se dégage avec force et finit par répliquer qu'elle sait très bien courir toute seule. On est ravis de voir ici une alternative au cliché habituel de relation femme-homme. C'est pas une relation amoureuse, mais c'est bien une collaboration d'égal à égal vers un but commun.
Oui, il y a une évolution dans le film Star Wars, mais il y a quand même un petit problème avec les jouets dérivés.
Oui, le marketing reste ultra genré, hein, puisque Rey, personnage principal du film, je le rappelle, a été purement et simplement évincé des jouets dérivés, au prétexte que les petits garçons, cible marketing de la franchise, ne voudraient pas d'une fille dans leur jeu.
Alors, est-ce qu'on a des œuvres qui montrent, par exemple, aux petits garçons qu'ils peuvent aussi être sensibles et montrer leurs émotions ?
Oui, on peut citer Avatar, le dernier maître de l'air. Je parle bien de la série animée, hein, pas des mecs bleus. Avatar, c'est une série qui est située dans un univers où certaines personnes ont le pouvoir de contrôler l'un des quatre éléments. Il y a une grande diversité de personnages, de diverses appartenances ethniques et des genres montrés de façon non stéréotypée. Avatar porte dès le départ un fort message antisexiste, avec des personnages féminins qui, encore une fois, n'ont pas besoin d'être secourus, qui ont des rôles importants dans le groupe, y compris chez les méchants. Mais surtout, la plupart des personnages du dernier maître de l'air, quel que soit leur genre, sont complexes. Ils peuvent avoir des qualités comme la douceur, la compréhension, la diplomatie, et en même temps être forts, déterminés, ambitieuses.
Est-ce qu'on y évoque d'autres problématiques que le genre ?
Oui, dans Avatar, on a notamment la question du handicap à travers Toph, une jeune fille aveugle qui a le pouvoir de manipuler la Terre. Toph, elle se rebelle violemment contre les préjugés sur sa soi-disant faiblesse. Et puis on a aussi certains personnages qui n'ont pas de pouvoir, comme Sokka. Du point de vue de la série, ça peut être assimilé à un handicap puisqu'ils ont moins d'habilité que les autres. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir des rôles déterminants en se battant avec d'autres méthodes. Et puis, le dernier maître de l'air, ça nous offre aussi un fort message pacifiste. Il s'agit toujours de protéger toutes les vies humaines, malgré les guerres.
Donc, Avatar, le dernier maître de l'air, qui apporte pas mal de représentations variées. Et l'adaptation au cinéma de la série par Shyamalan ?
Ça a été une énorme déception. Parce que, bon, au-delà de la qualité jugée médiocre, le film a fait totalement disparaître la diversité chez les gentils, qui étaient pour la plupart racisés dans la série. Les personnages ont tous été joués par des acteurs blancs, sauf le méchant. C'est un cas complètement caricatural de whitewashing dont on parlait tout à l'heure.
Donc le whitewashing, c'est la pratique qui consiste à effacer les personnes racisées ou à les faire jouer par des blancs. Bon, est-ce qu'on a une œuvre parfaite sans aucune ombre au tableau ?
Ouais, alors je suis pas très subjective, mais je pense qu'on en est pas loin avec Steven Universe, une récente série d'animation créée par Rebecca Sugar, c'est une femme. Steven Universe, c'est l'histoire de Steven, un jeune garçon mi-humain, mi-gemme, élevé par les Crystal Gems, trois femmes au pouvoir magique. Tout en restant très simple et abordable pour un jeune public, Steven Universe bouscule radicalement les clichés de genre et de structure familiale. Dans Steven Universe, on trouve des personnages féminins ou masculins complexes qui peuvent être forts et fragiles à la fois, mais aussi des relations amoureuses qui défient les normes, un père célibataire impliqué auprès de son fils sans pour autant être le cliché du papa poule, un jeune héros masculin qui assume bien souvent les fonctions de protection et de soins, tandis que ce sont les femmes de l'équipe qui gèrent l'attaque. Et puis on y trouve aussi des réflexions brillantes de simplicité, vraiment sur l'importance de l'entraide, de l'honnêteté du dialogue, ou encore l'absurdité totale de ce cliché du coup de foudre. Enfin bref, Steven Universe, c'est une série qui a tout compris en matière de présentation, puisqu'elle promeut la diversité, et ce y compris parmi ses créatrices et ses créateurs. Je préfère ne pas en dire davantage et vous laisser la découvrir si vous en avez l'occasion.
On va quand même écouter une chanson tirée de Steven Universe. Elle parle de quoi ?
Alors c'est la chanson de Garnet. Garnet, c'est un personnage féminin noir qui incarne une relation amoureuse entre deux femmes, puisque c'est une fusion. Elle raconte son histoire dans cette chanson et on peut donner la traduction de quelques vers emblématiques. « Nous sommes à nouveau réunis, nous n'allons pas suivre tes règles, tu ne briseras pas ce qu'on a créé ensemble, voici ce que nous sommes, voici ce que je suis, si tu penses pouvoir m'arrêter, tu te trompes, je suis faite d'amour et ça, c'est plus fort que toi. »
On écoute la chanson « Stronger Than You » de Steven Universe qui est chantée par Estelle.
This is Garnet, back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you, because I'm so much better. And every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just one on two. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. But I think you're just mad cause you're single. And you're not gonna stop what we made together. We are gonna stay like this forever. If you break us apart, we'll just come make you up. And we'll always be twice the gem that you are. I am a then you need to think again. Because I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I know something you're afraid of, cause you think that you see what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I a conversation. I am a and it's stronger than you.
Alors vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif féministe et anticapitaliste Debout. Et cette émission aujourd'hui, c'est l'occasion de parler des femmes fortes, des trans, des lesbiennes qui ont réussi à échapper à l'invisibilisation habituelle. des femmes émancipées et différentes expressions de genre qu'on encourage.
Donc une représentation qui est assez commune pour des personnages féminins dans des œuvres de fiction, c'est celui de la femme coincée dans un monde d'hommes. On peut citer Alien, par exemple, un film d'horreur où, attention spoiler, le protagoniste Ripley est le personnage qui a raison depuis le début et c'est la seule à survivre avec un petit chat. Et c'est pas pour sa virginité, comme on a entendu dans l'extrait précédent, c'est parce qu'elle se bat pour le faire et elle se bat pour survivre et elle survit grâce à ça. Dans le même genre, on peut citer aussi le personnage de Carter dans la série Stargate, qui subit perpétuellement le sexisme du milieu militaire, dont on va écouter un extrait du premier épisode.
Je suis officier de l'armée de l'air, comme vous, mon colonel. Et le fait que mes organes de reproduction soient situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire que je vous suis inférieur, mon colonel.
Oui, c'est bien envoyé dans Stargate. Et dans Game of Thrones.
Oui, Game of Thrones, alors, entre les scènes de viol, la guerre, les mariages forcés, on ne peut pas franchement dire que Game of Thrones soit la série féministe de l'année. Ceci dit, il y a quand même plusieurs personnages qui évoluent dans cette série et qui me font avoir un constat un peu plus mitigé. Bon, évidemment, Brienne de Tarth, qui est une chevalière musclée avec une vraie armure complète, pour une fois, et un sens de l'honneur très développé. Et on peut voir qu'elle est plus là pour ses muscles et ses capacités tactiques que pour son physique de mannequin. Ce qui paraît plutôt logique pour une militaire. Mmh. Ce qui n'est pas le cas partout. Mmh. Il y a aussi Daenerys Targaryen, la mère des dragons, la reine de Meereen, dont elle fait libérer les esclaves en obligeant leur maître à les affranchir, quitte à leur faire subir le même traitement pour les faire fléchir. Alors au début, on la voit qui est placée au second rang derrière son frère, puis Khal Drogo. Elle finit par affirmer ses convictions émancipatrices ainsi que ses prétentions sur le royaume de cette couronne.
Et puis, alors, il y a aussi un film qui a surpris pas mal de monde, c'est Mad Max.
Oui, dans le dernier Mad Max, donc, il met en scène Furiosa, une héroïne, encore une fois, forte et émancipée, aux côtés de Max, le héros emblématique de la série. Alors déjà, le scénario en lui-même, un groupe de femmes qui se libèrent de l'esclavage sexuel, et puis on se focalise bien sur leur libération, hein, parce qu'aucune scène ne les montre comme des victimes. Et puis, entre Furiosa et Max, exit le cliché de la relation amoureuse entre les deux protagonistes. Bah oui, l'amour, c'est pas la seule relation possible entre une femme et un homme. Et puis, aucun personnage n'est effacé au profit de l'autre. Comme quoi, il est tout à fait possible d'avoir des personnages féminins forts sans pour autant effacer les personnages masculins. C'est pas une compétition, il y a de la place pour tout le monde.
Oui, c'est le cas dans Mad Max et Walking Dead, alors.
Alors, ce qui est plutôt sympa avec les zombies, c'est qu'ils font aucune distinction de genre, de sexe, de richesse ou quoi que ce soit. Alors bon, oui, je parle ici de la série dont le spin-off est le plus pourri dans ce qui m'a été donné de voir, Walking Dead. Bah, bon, voilà, c'est mon avis, ça, en tout cas. Et donc, au premier rang de mes passages favoris, j'ai adoré comment a fini le personnage de Merle. Alors attention, spoiler, là aussi. Merle, c'est le plouc raciste de l'histoire dans les premières saisons. On le voit à un moment être au service d'une sorte de début de dictature qui ne dit pas son nom, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, si on peut dire. Donc on pourrait se dire que là, Merle, il était protégé. Et donc, à la fin de son histoire, il est quand même abattu par ceux qu'il protégeait au départ et finit transformé en zombie. Je me dis que là, il y a une sorte de petite métaphore sociale qui est plutôt pas mal. Et je devais aussi citer Carole Pelletier, la femme qui était battue par son mari au début de la série, qui devient au fur et à mesure un membre du groupe à part entière, une fois son mari dans le ventre d'un zombie. Et il y a aussi bien sûr le personnage de Michonne, le personnage le plus badass de la série, une femme noire qui n'a pas de rôle subalterne et qui en vient même à assommer le personnage principal quand celui-ci pète un plomb.
Eh oui, donc les zombies, peut-être vers une société égalitaire. Et Orange is the New Black.
Oui, Orange is the New Black, ça raconte le quotidien dans une prison pour femmes aux États-Unis. Alors évidemment, une prison pour femmes, donc plein de personnages féminins de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les classes sociales, mais aussi diverses orientations sexuelles et puis même une femme transgenre. Jouée par l'actrice Laverne Cox, qui est aussi, elle, réellement une femme trans.
Oui, des bons points pour Orange is the New Black. Et côté jeux vidéo, il y a le studio BioWare.
Oui, donc le studio BioWare avance beaucoup dans ce domaine. Déjà, dans la série de jeux Mass Effect, il y avait une relation lesbienne qui était possible de poursuivre dans le jeu. Il y avait une polémique aux États-Unis à cause de ça. Les journaux n'aimaient pas trop ça dans les jeux vidéo. Et plus récemment, il y a le jeu Dragon Age Inquisition, Donc, on a un personnage trans qui est présent dedans, Crème. C'est un guerrier avec qui on peut interagir pour lui poser des questions sur sa transidentité, et un comportement transphobique sera même puni dans le transphobie sera même puni dans le jeu, puisqu'on ne pourra pas recruter cet allié.
C'est pas ce qu'il y a de plus facile quand on grandit à Tevinter, dans le rang juste au-dessus de celui des esclaves.
À Kunandar, Krem serait un Akunatlok. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui naît avec un sexe mais qui vit comme l'autre.
Et les Kunari ne traitent pas ces Akun différemment des vrais hommes ?
Ce sont de vrais hommes. Comme toi.
Ton peuple n'est peut-être pas si mal, finalement.
Oui, et si vous voulez en savoir plus sur la transidentité, on vous recommande l'excellente BD « Assigné garçon » de Sophie Labelle. C'est une BD trouvable sur Tumblr et d'autres réseaux sociaux.
Oui, et puis vous retrouvez plein de liens, vidéos notamment, sur notre site internet www.collectif-debout.org. Hein, pour chaque émission, en général, on vous prépare pas mal d'informations en plus. Et bon, il y a plein d'œuvres dont on aurait aimé vous parler, qui ne sont pas des œuvres américaines, qu'on a beaucoup citées. Il y a plein d'exemples positifs dans l'animation, les jeux vidéo japonais, la télévision britannique... On a d'autres exemples ?
Oui, on peut citer, tu parlais d'animation, les films des studios Ghibli, surtout les films de Miyazaki, qui nous présentent bien souvent des héroïnes qui sont super badass et ça fait plaisir. Voilà.
En restant sur le Japon, il y a aussi le studio de jeu Atlus, plus particulièrement Persona 4, qui est un jeu qui traite justement ces personnages comme des êtres humains. Donc on a beaucoup de personnages féminins qui justement se retrouvent coincés dans un monde sexiste, qui en parlent, qui expliquent les pressions qui sont liées à ça.
Et puis en termes de télévision britannique, on peut citer par exemple la série Misfits qui racontait l'histoire d'une bande d'ados qui se retrouvait du jour au lendemain avec des pouvoirs. La télévision britannique, c'est bien souvent de bons exemples de représentation avec des personnes noires, des femmes, des hommes. Voilà, pas mal de diversité.
Oui, donc quand on veut, on peut les trouver. C'est bien de les mettre en avant, c'est ce qu'on a voulu faire dans cette émission, puisque tout le monde devrait avoir sa place dans tous les médias. Et donc voilà pour les exemples. Et maintenant, on va se quitter avec la chronique de la Marche mondiale des femmes, qui donne la parole à des femmes qui, elles, sont également souvent effacées dans les médias. Il s'agit des révolutionnaires kurdes. Donc on écoute la chronique de la caravane et on vous dit au mois prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Caravane féministe. Nos carnets de route.
Il y a presque un an, la caravane féministe était à Nusaybin, au Kurdistan turc, son point de départ. On pouvait voir, à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, la ville de Kamishlo, une zone kurde de Syrie que le peuple kurde administre lui-même depuis le début de la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui, les Kurdes de Turquie vivent un état de siège. Depuis l'été 2015, le gouvernement turc d'Erdogan a lancé une offensive très violente contre les populations kurdes en Turquie. Les villes où nous sommes passés avec la caravane, Nusaybin, Mardin, Ahmet Dirbakir, ont été bombardées et les journalistes et activistes kurdes sont poursuivis. Plusieurs militantes qui nous ont accueillis en mars dernier ont été tuées ou emprisonnées par l'État turc. L'interview que vous allez entendre maintenant a été enregistrée en mars 2015 à Nusaybin. C'est celle d'Aber Massaf, une femme kurde qui vit à Kamishlo, en Syrie.
What are the situation of your city right now?
We are living in the north of Syria. Our city is the.
Quelle est la situation de votre ville en ce moment?
Comme vous savez, nous vivons au nord de la Syrie. Notre ville est juste au nord, juste à la frontière avec la Turquie. Et toujours, quand on vivait sous le régime de Assad, on était comme des cités perdues. On vivait dans la misère, dans une situation vraiment misérable. Parce que nous vivons dans des villes kurdes. Quand la révolution a commencé, nous avons eu une autre révolution. Notre révolution consiste en deux parts. D'une partie, construire notre pays, nous construire nous-mêmes, et puis aussi une révolution, protéger notre canton, nos villes, de la part à la fois de l'Assad et de ISIS. ou quels que soient les ennemis qui voudraient nous occuper. Maintenant, nous avons beaucoup de problèmes de la vie quotidienne, des problèmes vraiment de vie. On n'a pas l'électricité. Tous les jours, on a comme 1 heure, 2 heures d'électricité par jour. On n'a pas forcément d'eau. On a beaucoup de problèmes là-dessus. Maintenant, on a un nouveau système dans notre organisation kurde. On construit notre pays comme nos cantons. On les construit par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et en même temps, on est en train de se protéger de tous les barbares, de l'ISIS, des organisations intégristes islamiques. Ils sont juste à quelques kilomètres de notre pays. Et tout le temps, nos gens se protègent de situations de stress. Et en même temps, on se construit. On a des administrations, on a des ministères, on a tout. On le fait. En tant que femme, nous avons un nouveau système, le premier du monde, où dans chaque association, dans chaque organisation, on a une femme et un homme qui administrent cette organisation. Est-ce que tu appartiens à un parti politique ? Le Parti libéral du Kurdistan. Et qu'est-ce que tu fais dans ce parti ? Quel genre de travail ? Nous voulons expliquer à tout le monde que nous devons écouter les uns, s'écouter les uns les autres, parler avec tout le monde, au lieu de se combattre entre nous. On est 6 partis politiques, on travaille ensemble. Maintenant, on a le Taftam, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le mouvement démocratique qui rassemble les 6 partis politiques. Et ça s'appelle le mouvement démocratique de la société. Et donc, dans notre canton, on travaille avec les autres partis politiques maintenant. Dans quelques jours, on aura, une assemblée ? Non, pas une rencontre. On va choisir nos représentants. Ah oui, des élections, oui, des élections. Est-ce que tu peux parler, si tu veux bien, de la situation des organisations de femmes, des coopératives de femmes ? Oui. Comme je vous l'ai dit, maintenant les femmes vivent dans une grande situation de misère. Pour l'instant, il y a un petit nombre de femmes qui travaillent et qui sortent de leur maison. Maintenant, ces femmes travaillent ensemble et elles enseignent aux autres femmes. Maintenant, on a un ministère des femmes. Et dans chaque ministère, dans chaque organisation, on a entre 40 et 50% de femmes dans chaque organisation. Les femmes et les hommes travaillent ensemble pour gérer ces organisations. En ce qui concerne les coopératives, donc maintenant, comme vous savez, on a plus de problèmes économiques. Dans le canton de Kamushli, on a de nombreuses coopératives pour donner une chance aux femmes de travailler. Maintenant, on a quelques coopératives. Et quel genre de coopératives ce sont et qu'est-ce qu'elles font ? Nos coopératives, ce sont des petites coopératives concernant tout ce qui est la couture, l'alimentation. Elles fabriquent des biscuits, des gâteaux. Mais maintenant, on a un autre problème. On a un problème au niveau de l'éducation. Nous sommes dans un canton kurde et on n'a pas d'université ou d'institut. On a des écoles, mais on n'a pas des lycées. Tous les gens qui habitent sur notre territoire doivent aller à Alep pour poursuivre leurs études, Alep ou Damas. Si vous vous souvenez de la carte syrienne, on est complètement au nord, donc pour aller à Damas, c'est trop difficile. Donc les filles et les garçons, mais surtout les filles, Il y a toujours plus de problèmes pour les filles. C'est très difficile pour eux de finir leur éducation. Ils finissent l'école et puis ils restent à la maison. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont parties se battre avec le YPG pour gagner plus de liberté? Est-ce que vous pensez que ça existe? Pour l'instant, on est en guerre. Donc il y a des filles qui sont parties se battre, participer à la guerre. Comme vous savez, on a le YPG. Donc ce sont des soldats femmes. Mais quand la guerre sera finie, elles vivront leur vie. Déjà, on a eu ça, les femmes qui sont parties combattre à Kandil. Après, elles sont rentrées et elles ont construit leur famille, elles ont eu des enfants. Elles étaient dans la guérilla et maintenant elles sont rentrées à la maison, elles se sont mariées, elles ont fait leur famille. Et concernant la violence contre les femmes, dans la famille, il y a beaucoup de violence contre les femmes. Oui, ça vient de Kobané, c'est de Syrie. Pour l'instant, dans notre pays, dans notre canton, c'est vraiment la guerre. Et là, on a eu 60 personnes tuées là, il y a quelques jours. Hier. Juste maintenant, on a une grosse guerre. C'est à peu près à 40 km de ma ville. C'est pas très loin. En ce moment, on a beaucoup de gens tués. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez demander? Je voulais te demander à propos de la violence contre les femmes. Je suis sûre que c'est un problème dans la société, mais aussi à l'intérieur des familles. Oui, on a de nombreux problèmes dans nos familles, dans nos sociétés. Comme vous savez, les femmes ne pouvaient pas aller librement ici et là. Elles devaient demander l'autorisation de leur père ou de leur frère ou de leur mari pour sortir, pour aller quelque part. Et voilà, c'est très difficile pour elles de travailler, d'étudier, tout. Maintenant, on a une nouvelle loi dans notre canton qui est venue du ministère des Femmes. Dans la Constitution, il y a 30 articles sur les femmes, 30 notes. Maintenant, les hommes ne peuvent plus avoir 4 femmes comme dans les pays musulmans. Dans notre canton, c'est impossible, ils ne peuvent pas. Les femmes peuvent travailler et normalement faire ce qu'elles veulent si elles le veulent. Et elles peuvent partir de leur mari si elles veulent, s'ils sont d'accord tous les deux. Comment vous pouvez protéger une femme qui essaye de sortir d'une situation de violence? Est-ce que vous avez des moyens pour les soutenir? Des abris, des centres qui peuvent les aider? Oui, donc on a des centres qui accueillent les femmes qui ont des maris violents, qui les battent. Si elles ont besoin de partir de leur maison, on a des centres. Ils leur apprennent un travail et à construire leur futur.
خوينن ادي قلم قشتو نجر كجبنا رجال خاجهان